faire dimanche le 20e congrès du Parti communiste chinois en se félicitant de son bilan et du rayonnement de la Chine dans le monde.
L'influence internationale de la Chine, son attrait et son pouvoir de façonner le monde ont considérablement augmenté.
L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping il y a 10 ans, les relations avec Pékin se sont dégradées. D'autant que les sujets qui fâchent ne manquent pas, à commencer par la répression de la minorité musulmane ouïghour, les atteintes aux libertés à Hong Kong et le projet de réunification avec Taïwan. En recourant à la force si besoin, a prévenu Xi Jinping devant le congrès du Parti communiste chinois.
La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée.
Sur le plan économique, l'esprit de conquête de la Chine inquiète également. Du salon de l'automobile à Paris, en passant par le développement d'infrastructures en Afrique et l'importation non-stop de produits made in China, le pouvoir chinois demeure incontournable, voire envahissant. Biden a-t-il été trop naïf avec la Chine? Sur fond de désaccords, mais aussi de crises énergétiques et de mainmise chinoise sur les terres rares, peut-on vraiment en finir avec notre dépendance à la Chine?
10 ans plus tard.
Oui, alors... On était quand même nombreux à savoir que ce ne serait pas un Gorbatchev, aussi parce qu'en fait la Chine avait déjà eu un Gorbatchev qui était Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a réformé la Chine avant que l'Union soviétique lance ses réformes. En revanche, on a eu très très vite l'assurance que la décennie allait être compliquée, notamment sur le plan des évolutions politiques, puisque dès 2013, 6 mois après l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, en fait, il y a eu la fin d'un début de réforme constitutionnelle en Chine. Et c'était la seule ouverture possible que l'on pouvait espérer pour des évolutions politiques. Donc le Gorbatchev et le Gorbatchev économique n'avaient pas de sens, puisque la Chine, en 2012, était déjà membre de l'OMC depuis fort longtemps. Il y avait déjà derrière elle 30 à 35 ans de réforme. Ouais. Donc non, je crois que pour les
parce
gens
qu'au début,
connaissent...
on avait l'impression que Xi Jinping, la démocratie n'était pas étrangère dans ce qu'il pouvait écrire, dire, et finalement ça.
Ah non, mais la démocratie est un terme que les régimes marxistes-léninistes utilisent. Ce n'est pas un terme tabou. La démocratie électorale en est une. En fait, le système qui est utilisé, c'est celui de centralisme démocratique. Tout le monde s'exprimer et puis on décide ensuite au niveau central. Donc c'est pas en soi un tabou, la démocratie.
Et au fond, d'ailleurs, c'était même avant le président Xi aussi, que la Chine a évolué dans sa gouvernance. Je pense que la grande erreur qu'on a faite finalement dans la conception, la réflexion sur la relation avec la Chine, c'est ce que certains ont appelé à propos des États-Unis le complexe du missionnaire. C'est-à-dire on a cru qu'en ayant plus de relations avec eux, ils allaient plus nous ressembler. S'approcher plus d'une démocratie libérale et économie de marché. Et donc, ça n'est pas le cas, évidemment. Et Xi Jinping, au fond, a été effectivement probablement l'artisan d'une rupture plus forte et qui s'est matérialisée, en effet, dans les premières années de son mandat par ce plan, par exemple, Made in China 2025, qui réaffirmait la volonté d'autosuffisance sur un certain nombre de secteurs et puis une reprise en main politique aussi, une sorte de raidissement.
Xi Jinping, il faut bien voir que quand même dans un premier temps, c'est quelqu'un qui voyageait, qui était peut-être le chef d'État qui voyageait le plus. On avait l'impression qu'il allait participer à la gouvernance globale. C'était quand même la grande impression. Pour prendre un exemple sur les questions environnementales, en 2009, à la conférence de Copenhague, la Chine dit qu'en gros, elle ne veut pas suivre les autres pays parce que, en fait, les contraintes environnementales l'empêcherait de se développer.
Sur les engagements.
Les engagements l'empêcheraient finalement de rattraper l'Occident. Et en 2015, lors de la conférence de Paris, la fameuse COP 21, ils ont un rôle très, très important. Et sur tout un tas de dossiers, c'est pour ça que faire le bilan de l'engagement à l'égard de la Chine, c'est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, la Chine a signé énormément d'accords internationaux que les États-Unis n'ont pas signé. Sur la question de prolifération nucléaire, à la fin des années 90, au début des années 90, on avait l'impression que la Chine était plutôt proliférante. En 1992, elle signe le traité de non-prolifération et elle devient plutôt un bon élève. Elle participe même, pendant quelques moments, à des négociations sur la Corée du Nord. Donc c'est assez tard, finalement, plutôt vers 2019-2020, que vraiment on a eu l'impression de ce tournant et de cette inquiétude, même si rétrospectivement maintenant, on peut dire il y a eu un tournant en 2008, il y a eu un tournant en 2012-2013. Voilà, on peut retrouver des tournants de ce type-là.
Essayer de faire l'inventaire de cette relation avec la Chine, il faut bien voir aussi que nous avons aussi profité de cette relation, que cette relation elle s'est faite en marchant, que les États-Unis et la Chine ont une relation depuis que les États-Unis États-Unis existent et que l'Union, avec l'Union européenne, c'est plus compliqué puisque l'Union européenne a reconnu la Chine qu'en 1975. Donc nos relations, elles sont très jeunes. Donc il faudrait regarder les relations bilatérales avec chaque pays européen et à l'échelle globale de l'Union européenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'un dans l'autre, oui. La Chine a quand même, elle a respecté ou pas. Il faut faire un inventaire très précis. Mais en termes de droit de la propriété intellectuelle, les choses sont beaucoup plus complexes que ce qui n'y paraît.
Ça a accru ce sentiment de dépendance. Alors évidemment, ça a été les masques, ça a été aussi un certain nombre de produits pharmaceutiques ou autres. On a eu aussi, vous vous souvenez, ce porte-conteneur qui était coincé dans le canal de Suez. On s'est dit, voilà, ça pose un problème. On sait que, voilà, si au moment de Noël, on n'a pas les jouets chinois, il n'y a pas grand-chose sous le sapin. Bon, enfin, il y a un certain nombre de choses extrêmement concrètes. Mais là aussi, tout ça est monté progressivement. Par exemple, vous avez évoqué les terres rares, la grande crise autour des terres rares, c'est 2010-2011, où ils ont commencé à dire qu'ils n'allaient pas en fournir au Japon. Donc, tout ça, ce sont des prises de conscience qui ont été assez lentes. Avec des affaires à chaque fois, avec l'impression aussi qu'ils commençaient à piller le tiers-monde. Pourquoi ? Parce aussi ils avaient besoin de matières premières pour faire des produits qu'ils allaient nous exporter après. C'est des entreprises occidentales qui aussi, évidemment, tiraient le plus de bénéfices en termes financiers des fabrications qui étaient faites en Chine. Le problème aussi, c'est que finalement, est montée avant la question du Covid, au moment de l'élection de Trump, l'interrogation sur le fait qu'il y avait un certain nombre de classes sociales en Europe et aux États-Unis qui n'avaient pas profité de cela. C'est-à-dire ils avaient effectivement des produits à bas coût, mais en fait, ça permettait de bloquer les salaires et de garder, de faire une politique très déflationniste. Et donc, il y avait des profits quand on allait faire des affaires en Chine, mais pour les ouvriers et, disons, la petite classe moyenne dans les pays occidentaux, c'était finalement à la fois une société d'abondance à Walmart ou autre dans les grands, supermarchés, mais en même temps, des salaires qui étaient bloqués.
Que jusqu'à présent, si on arrive à sortir de notre naïveté, c'est parce qu'on connaît mieux la Chine. Et qu'en fait, la vraie difficulté de tout ça, a posteriori, c'est qu'on ne s'est pas assez décentré pour essayer de comprendre de l'intérieur comment la Chine voyait le monde et quelle était notre capacité à comprendre la Chine. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on change tous.